et avec votre esprit. Gloire à toi, Seigneur.
À ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : Moi, je suis la vérité, et mon Père est le vigneron. Tout serment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout serment qui porte du fruit, et le purifie avec orient, pour qu'il en apporte davantage. Mais déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le serment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne. De même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous, les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. Car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est, comme le serment, jeté dehors et il se dessèche. Les serments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez comme moi, les disciples. Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes amis, l'image de la vigne est assez présente dans toute la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament. Si on s'en tient à l'Ancien Testament, on peut la retrouver aisément chez les grands prophètes comme Isaïe, Jérémie et Ézéchiel. Contentons-nous de cette allégorie telle que Isaïe la présente au chapitre 5. En fait, il met en exergue, en évidence, le traitement si attentionné de Dieu envers son peuple. Il lui prodigue des soins exceptionnels. Malheureusement, malgré ce traitement, le peuple d'Israël échoue de produire des fruits escomptés, des fruits selon le cœur de Dieu. Mais cet échec d'Israël ne constitue pas la fin de l'histoire. Parce que, comme vigne, Israël a échoué, mais l'évangile d'aujourd'hui nous présente la vraie vigne. Parce que Jésus dit, je suis la vraie vigne, donc je prends la place d'Israël. Si Israël, la vigne du Seigneur, a échoué, mais voici moi, je suis la vraie vigne, dit-il. Voilà la signification qu'on peut donner à l'adjectif vrai. Pourquoi il dit vrai? Il ne dit pas la vigne, il dit la vraie vigne. Celle qui va produire des fruits selon le cœur de Dieu. Dans une de nos rencontres des prêtres, je me rappelle quand on discutait, on parlait des homélies, et un de mes confrères prêtres, il me demande, il dit, mais en fait, quand nous avons l'occasion de développer un thème pour le prions, c'est que c'est facile pour nous, ce dimanche qui tombe, parce que nous n'avons pas à préparer tellement, il faut seulement prendre le texte et puis le lire. Alors moi je lui ai dit, c'est vrai, mais moi je le fais rarement, prendre le texte et le lire. Et puis je reviens rarement à l'histoire que j'ai racontée à la première page du prions, à la page 2. Mais aujourd'hui, j'ai fait une exception. Je vais revenir sur l'histoire que je raconte. Parce que la vigne, voyez-vous, peut-être vous en avez eu l'expérience, moi je l'ai vue pour la première fois, la vigne comme plante, je l'ai vue pour la première fois en 1991, dans la région du Niagara. Alors ce qui te frappe en fait, quand tu vois la vigne, c'est l'assemblage. C'est tout un tout. Voyez-vous? Alors tout se tient. Tout s'accroche. De sorte que quand tu sépares vraiment une branche de la vigne, elle est condamnée. C'est tout qui se tient. Alors, quand notre Seigneur utilise cette allégorie, et qui veut dire, lui là, c'est lui qui est au cœur de la communion de ses disciples. Le Seigneur Jésus, comme Christ, ne peut pas être considéré seul. Il est entouré de tous ses disciples, tout se tient autour de lui. Alors, c'est lui qui explique tout, c'est lui qui réunit tout, c'est lui qui est le trait d'union de tout, c'est lui qui est le pont de tout, et c'est lui qui fait le tout. Mais maintenant, quand nous regardons le monde d'aujourd'hui, surtout dans notre culture qui devient de plus en plus individualiste, alors nous entendons des réactions comme « Moi, je crois dans le Christ, je crois en Jésus-Christ, mais je n'ai rien à faire avec l'Église. » Alors tu as des gens qui disent « Moi, j'accepte Jésus-Christ dans mon cœur, mais je n'ai pas à présenter ma foi publiquement. » Moi, je crois au Christ, mais je n'ai pas à m'impliquer dans l'Église. Alors quand on réfléchit avec cette attitude, avec cette manière de penser, et qu'on compare cette manière de penser avec l'allégorie d'aujourd'hui, qui en fait présente le Christ au cœur de l'unité chrétienne, on voit qu'il y a opposition. Pour le Christ, la vraie vigne, il se comprend avec ses disciples. Ce n'est pas un Christ séparé, ce n'est pas les disciples séparés du Christ. C'est tout un ensemble. L'Église, c'est la vraie vigne. L'Église, c'est le Christ avec ses disciples. Voilà comment, à mon avis, il faudrait comprendre le message d'aujourd'hui. En fait, quand on regarde l'image de la vigne, eh bien, on se dit, parce qu'Israël, en fait, comme l'Église, nous sommes appelés à vivre en symbiose avec le Christ. Parce que quand on vit en symbiose comme Église, alors nous pouvons produire des fruits de justice, de paix et d'amour authentique, selon le cœur de Dieu. Et le Christ, comme la vraie vigne, il est en train d'accomplir le dessein de Dieu. Ce que Dieu a toujours voulu. Qu'est-ce que Dieu a toujours voulu? Rassembler ses enfants dispersés. A toujours voulu faire l'unité, toujours mettre ensemble. Alors, si le Christ est dit vraie vigne, c'est parce qu'il a compris le dessein, la volonté de Dieu, qui est de rassembler l'humanité. Mais maintenant, nous autres là, comme disciples du Christ, nous sommes appelés à prolonger cette mission du Christ de rassembler, d'unir, de mettre ensemble. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que nous, comme disciples du Christ, nous devons appuyer, soutenir l'unité des familles, l'unité des couples. Nous, comme disciples du Christ, nous devons travailler et encourager la convivialité des nations, des peuples, des cultures. Nous, comme disciples du Christ, nous devons apprendre à être des ponts pour unir les gens, pour rassembler, rapprocher les gens. Nous, comme disciples du Christ, nous devons être des traits d'union pour mettre ensemble les opposés, pour rassembler. J'aime beaucoup ce qui était dit dans la première lecture d'aujourd'hui à propos de Barnabé. Voyez-vous, Paul, quand il s'est converti, dans ses premières heures, il a commencé, comme dit le texte, il est parti prêcher à Jérusalem. Mais le chrétien était méfiant. Il dit, mais cet homme-là persécuté, il nous persécutait, il n'y a pas grand temps. Et aujourd'hui, il parle, il prêche au nom de Jésus. Il faut faire attention. Peut-être qu'il nous attend au tournant, il va nous avoir encore. Alors, méfiance dans la communauté. Barnabé, qui avait foi en Paul, s'élève, il va parler aux chrétiens, il dit, écoutez là, Paul s'est vraiment converti. C'est un disciple du Christ comme vous et moi. Quand il prêche, il faut ouvrir vos cœurs, il faut l'accueillir dans la communauté. Les disciples ont entendu, à partir de ce moment-là, Paul a été accueilli dans la communauté. Voilà un exemple de trait d'union. Voilà un exemple de disciples du Christ qui rassemblent. Voilà un exemple d'une personne qui encourage l'unité, qui met les gens ensemble. Alors quand on réunit les gens ensemble, alors on fait la volonté de Dieu. On accomplit le dessein de Dieu, on rend actuel le dessein de Dieu. Mais maintenant, comment faire pour rester greffé sur le Christ en vue de produire des fruits selon le cœur de Dieu? Je me rappelle quand j'étais jeune, il y avait une publicité qui passait à la télévision, qui était très populaire. En fait, on faisait la publicité d'une huile de cuisson. Alors, on montrait dans différentes circonstances, différents coins, les gens qui se régalaient, qui mangeaient bien. Et toujours, ils étaient surpris de voir comment c'était succulent ce qu'ils mangeaient. Alors, ils posaient la question à la personne qui a préparé, « Mais quel est ton secret ?» Alors, la personne disait, donnait le nom de l'huile. Voyez-vous ? Moi, je me dis, quel est le secret qui va nous permettre de rester toujours greffés au Christ, de rester toujours en communion avec le Christ? Quel est le secret? Le secret, en fait, c'est de demeurer dans le Christ. C'est ça le secret. Mais maintenant, qu'est-ce que ça veut dire demeurer dans le Christ? Le Christ lui-même nous dit, si vous voulez demeurer en moi, si vous voulez être mes disciples, suivez mon commandement. Quel est mon commandement? Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alors, quand on aime comme le Christ a aimé, à ce moment-là, on est disposé à se mettre à genoux et à laver les pieds de nos amis, des gens qui nous entourent, à les servir humblement. Quand on reste greffé au Christ et qu'on essaie d'aimer comme lui nous a aimé, à ce moment-là, on est tout tourné pour aimer jusqu'au bout les personnes qui sont proches de nous, pour donner notre vie aux personnes qui nous aiment et personnes que nous aimons. Alors, quand on reste greffé sur le Christ vraiment, à ce moment-là, on apprend à poser des gestes de bonté, de compassion, de réconciliation, de communion, surtout envers le plus petit, les oubliés. Parce qu'on est devenu disciple du Christ. D'ailleurs, à ce propos-là, j'ai encore été surpris et puis édifié par la deuxième lecture. Jean qui nous dit, écoutez, il ne faut pas vous aimer dans les mots, dans les paroles. Encore une fois, quand j'étais enfant, quand on allait à l'école et qu'on écrivait dans ton journal de classe la remarque « bavard ». Alors là, c'était terrible. Alors la maison disait, comment ça se fait que tu es bavard en classe? Qu'est-ce que tu fais là? Tu déranges tout le monde. Ouais. Alors, il ne faut pas nous aimer dans le bavardage. Voyez-vous? Il faut pas être bavard dans l'amour. D'ailleurs, à ce propos-là, le pape dit encore quelque chose dans ce sens-là. Lui dit, le pape François, le vrai amour, c'est du concret. L'amour, c'est du concret. C'est pas une affaire, oh, tu sais, j'ai fait... C'est du concret. Ce sont des actes concrets que tu montres, que tu réalises. Voyez-vous? Alors, c'est ce que Jean nous dit. Ne vous aimez pas dans les paroles, mais que ce soit des actes concrets. Que des choses qu'on fasse. Alors, voilà la grâce qu'on va demander dans la messe d'aujourd'hui. Et j'aimerais beaucoup, dans ce souci-là, de vivre la communion, la cohérence, et puis de rester ensemble sur la vraie vigne, greffé sur la vraie vigne, de penser à nos frères et sœurs de Toronto. C'est à ce moment-ci, en fait, qu'on peut se dire on se sent proche d'eux. Parce que les choses qu'ils ont vécues, ça nous a touchés profondément. C'est nous-mêmes. Et parce qu'ils font leur vigile, la grande vigile aujourd'hui de prière, partout où nous allons être, qu'on pense aussi à eux. On le pensera aussi durant la messe, mais chacun, chacune d'entre nous, durant la journée, a le devoir de prendre une minute de silence et puis de s'unir aux personnes qui vont vivre une vigile aujourd'hui à Toronto. Parlant de ce qui s'est passé à Toronto, je regarde, il y a eu de tels événements dans plusieurs villes. Et dans les lectures de journaux, dans les nouvelles qu'on entend, partout dans les villes, les grandes villes, on essaie de se pencher, de voir comment faire pour protéger les piétons. Comment est-ce que dans une ville on peut faire pour éviter qu'une voiture folle arrive là et puis entre dans la foule? Alors ils se demandent comment faire les structures. Et c'est bien, il faut continuer à réfléchir. Moi, je me suis dit, mais en fait, nous, les disciples du Christ, une chose que nous devons savoir, que nous devons essayer de faire, rappelez-vous, c'est que la question que Dieu a posée à Caïn, quand Caïn a tué Abel, il dit, Caïn, où est ton frère? Alors Caïn, là, a fait l'innocent, mais est-ce que moi, je suis gardien de mon frère? Alors qu'il avait tué, en fait. Moi, je me dis, quand nous nous promenons maintenant dans nos villes, à Ottawa et ailleurs, nous devons être des gardiens et des gardiennes de nos frères et de nos sœurs piétons quand nous marchons. On doit être vigilant, on regarde autour, on se protège parce que nous sommes appelés à être des gardiens et gardiennes de nos frères et de nos sœurs. Voilà ce qu'on peut déjà commencer à faire petit à petit quand il arrive que nous marchions quelque part. Voyez-vous. Alors, on va continuer notre célébration. Le Seigneur dit dans la fin de l'Évangile, et l'Évangile nous dit que le Père regarde la vigne, il immonde les branches pour que les branches donnent encore plus de fruits. Qu'est-ce que le Père fait? Eh bien, il donne la force d'aimer même dans la douleur, d'aimer même dans l'angoisse, dans la détresse, dans la persécution. Le Père donne le courage d'aimer. Pourquoi? Parce qu'il veut qu'on porte toujours des fruits en abondance. Alors ce sont ces fruits-là que nous sommes appelés à donner. L'Eucharistie que nous allons recevoir nous donne la force, la vie du Christ, l'Esprit du Christ pour aimer comme le Christ a aimé et pour rassembler comme le Christ a rassemblé. Amen.